Oh, c'est rempli de reconnaissance que je me présente devant vous ce matin, rempli de reconnaissance pour ce voyage qu'on va faire ensemble. Un voyage qui va partir du jardin, qui va nous amener jusqu'à contempler un voile et qui va nous amener jusque à la croix. Et puis, si vous êtes sage, on ira un peu plus loin après la croix. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour ce voyage? Trois éléments essentiels à la parole de Dieu, le jardin, le voile et la croix. Amen. À quelle sauce il va nous manger? Il y en a qui sont habitués, c'est bon? Non, très simplement, un message christocentrique. Jésus est au centre de ces instants. Si vous êtes là, soit vous avez été invité, j'espère personne n'a été contraint, les ados, vous n'avez pas le droit de répondre. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous aimez avoir Jésus au centre de vos vies. Ou alors que vous y aspirez. Et c'est justement le message que je voudrais apporter ce matin. Un message où Jésus est au centre, vous me direz, comme toutes les prédications, alléluia. Mais particulièrement ce matin, où nous allons vivre ce pèlerinage qui va nous faire passer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On va non pas lire les 66 livres ce matin, rassurez-vous, mais on va les survoler. On va survoler en tout cas cette réalité que Dieu... Et ça, c'est quelque chose qui est comme un fil conducteur. Dieu souhaite être avec toi. Dieu veut un tête-à-tête avec toi. Dieu espère, soupire, languit à un quotidien avec toi. Et toi, avec lui. Et ça va être le fil rouge de cette parole qui va être annoncée. Mais tout commence par un jardin. Tout commence par un jardin. Le jardin, c'est celui que Dieu a créé au milieu de l'univers. Imaginez les étoiles, les galaxies, les nébuleuses qui sont là sur des milliards et des milliards d'années-lumière. Dieu y fait un petit îlot qu'on appellera la Terre, et sur cet îlot-là, il construit un jardin. Il façonne à la puissance de sa parole. Il a dit et la chose est arrivée. Il n'a pas eu besoin d'aide, il a parlé et les éléments ont pris vie. Il a parlé. Oui, Dieu créa les cieux et la terre. Dans ce mandala, c'est l'image d'après ma chère Léana, Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Et je peux l'attester, hein, s'il a tout créé, c'est les galaxies, il a tout créé, il t'a aussi créé toi. Est-ce que tu le crois ? Les enfants, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je sais qu'il y a des enfants ce matin. Vous avez vu, hein, les parents, on a des cultes maintenant avec les enfants. Gloire à Dieu! Il n'y a pas de parents qui ont dit gloire à Dieu. Si, vous êtes... Nous, on est heureux d'avoir les enfants avec nous. Parce qu'elle est là, la famille. La famille, c'est toutes les générations. Alléluia! Alors, on bénit tous ceux qui s'occupent des enfants un dimanche sur deux. Gloire à Dieu, tous les deuxièmes et quatrièmes. Je fais de la pré-annonce. Mais nous voulons vivre ce matin un culte ensemble, toutes les générations. C'est pour ça que, aussi au niveau visuel, les enfants, vous avez de quoi suivre, c'est normalement des codes qui vont vous parler. Pour ceux qui auraient la bande dessinée à la maison, le jardin, le voile et la croix, je vous demanderai de ne pas révéler la fin aux grands. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont cette BD à la maison? Ouais, cette famille-là, ok. Je vous conseille toute cette collection-là, elle est extraordinaire. Je ferme la page de promo, je n'ai pas d'action avec cette BD. Je ne gagnerai rien à avoir dit ça. Les enfants, Dieu a créé un jardin. Les grands, Dieu a créé un jardin. Et ce qui était extraordinaire dans ce jardin, c'est pas les milliards d'hectares d'arbres fruitiers. C'est pas les milliards d'animaux qui étaient là. C'est pas même Ève pour Adam. C'est exceptionnel, mais il y a plus que ça. Est-ce que vous avez une petite idée? Plus! Alors ceux qui ont déjà la bande dessinée, ils n'ont pas le droit de répondre. Désolé Sacha pour ce matin. Alors qu'est-ce qu'il y avait de plus que des arbres avec plein de fruits? Plus que Adam et Ève au milieu des... Plus que les animaux? Des fleurs, ok. Alors on va dire encore plus que les fleurs. Qu'est-ce qui pourrait être encore plus exceptionnel que des fleurs dans un jardin? Elisha? Ah, tu parles pas assez fort, je suis désolé. Il y avait Dieu. Dieu était là. Dieu était présent. Dieu était au milieu du jardin. C'est pas extraordinaire? Je pense que vous ne réalisez pas. Dieu était là. Dieu était au milieu. Et au milieu de l'abondance, Dieu a créé un jardin pour être avec nous. Il voulait, et chaque journée il venait, il marchait avec les êtres humains. Il racontait alors, qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui? Ah bah là aujourd'hui j'ai découvert un piracanta. Non, ça c'est un arbre qui est arrivé après le péché, ça. Ça c'est sûr que c'est arrivé au milieu. Mes bras peuvent en témoigner après avoir découpé celui-là là-bas. Non, j'ai découvert l'orchidée. Waouh, il y en avait toutes les couleurs. Imaginez les discussions que Adam et Ève avaient avec Dieu. Ils se réjouissaient d'un quotidien banal. J'ai découvert l'orchidée. Le baobab, waouh, un arbre énorme. J'ai découvert le chêne. Oh là là, il est majestueux. Et j'ai découvert le tigre. J'ai appelé ça le tigre parce qu'il y avait des rayures. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans ces discussions, mais c'était extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le Dieu créateur, qui a eu la patience d'aller placer les étoiles à plusieurs années-lumière, il était aussi avec les êtres humains pour discuter de leurs trouvailles. J'ai découvert un insecte qui s'appelait la fourmi. L'infiniment petit était aussi important pour Dieu que l'infiniment grand. Et tu es, même si à tes yeux infiniment petit, tu es aussi important que l'infiniment grand dans ce monde. Parce que Dieu, il veut être avec toi. Dieu créa les cieux et la terre. Il désirait ardemment être avec nous pour l'éternité. C'était pas quelques minutes par jour, ça devait durer jusqu'à pas de fin. C'est ça l'infini, hein, jusqu'à l'éternité, toute l'éternité, deux fois l'éternité, l'infini, l'éternité, tout ce que tu veux. Dieu voulait passer ce temps-là tout le temps avec toi. Voilà pourquoi il a mis au milieu de cet arbre, de ce jardin, un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de la vie. Tu mangeais de ces arbres, même les feuilles étaient comestibles, le tronc pour les castors, je ne sais pas. En tout cas, tu demeurais éternel. Mais pour valoriser cette relation qui ne devait pas être par intérêt, imaginez les enfants, un sac comme ça de bonbons. Est-ce que tu aimes la personne qui te donne un sac de bonbons comme ça? Non, tu n'aimes pas les bonbons, ok. Un sac comme ça, attention là, il va y avoir un gros amen, de poulet frit. Alléluia! Ouais, là, il y en a qui... Bon, faut que je revoie mes enregistres. Pas les bonbons, les poulets, ok. On aime cette personne qui nous donne ça. Moi, je l'aime deux fois, j'aime trop le poulet. On aime quelqu'un qui nous donne quelque chose. Mais est-ce que ce n'est pas un peu de l'amour par intérêt, au final? Les enfants, vous aimez vos parents? Bah normal, ils vous nourrissent, ils vous logent, ils vous font pas travailler, peut-être qu'ils vous font faire les devoirs avec plus ou moins de patience. Tout est relatif, je plaide coupable. Mais nous aimons par intérêt quand quelqu'un nous donne. Et pour s'assurer que l'amour était sincère dans le cœur de l'être humain, Dieu a mis un interdit, un seul, un arbre auprès duquel il ne fallait pas s'approcher, même pas le regarder, même pas le toucher. On pouvait le contourner, mais c'est tout. Parmi des milliards d'autres arbres et d'arbres fruitiers, des légumes extraordinaires, des curcubitacées, il y avait des concombres, tout ça, il fallait qu'Adam et Ève disent « Ouais, c'est bien un milliard d'arbres, mais il y en a un. Il y en a un d'arbre. Il m'intéresse. » Il est dit qu'Ève a vu cet arbre. Et il est dit qu'il était beau. Et il parut bon pour donner l'intelligence. Oh, il n'en fallait pas plus pour enfler. Oh là là, il est beau, je suis belle, allez, j'y vais. Il donne l'intelligence, mais je le suis déjà un petit peu plus. Mais pendant quelque temps, ils ne l'ont pas touché. Mais un jour, le diable est venu séduire. Il est venu apporter la relativité. Ah, la relativité, on aime bien, hein. On relativise pour tout aujourd'hui. Ah, on dit ça, ouais, mais est-ce qu'il a vraiment dit ça? Hein, quand moi je vous parle, vous allez dire, je vais vous avoir en entretien, je vais vous dire une phrase, Jésus t'aime, puis vous allez dire, ouais, mais est-ce que le pasteur derrière son Jésus t'aime, il voulait pas que je lui rende service et que je rentre dans un service parce que il est un peu fatigué? Non, Jésus t'aime, point. Nous relativisons tout le temps. Quand quelqu'un nous parle, ça passe au travers du prisme de, est-ce qu'il est vraiment sincère? C'est vrai ou pas? Non, vous êtes trop simple et... Non, moi je suis plus tordu que vous. Et le diable est venu dire à Ève, Dieu il est avec toi tous les jours. Il t'a donné des milliards d'arbres. Tu peux te régaler. Vous avez avec ton mari nommé des animaux et vous n'avez même pas encore fini tellement il y en a. Mais ça ne te dirait pas d'être comme Dieu ? D'être son égal ? Parce que là, au final, tu le suis. Au final, tu lui es soumis. En fait, tu es faible. Tu es fragile. Et là, l'orgueil naturel est piqué. Et la convoitise est née. Mais moi, je voudrais être comme un Dieu. Avoir la capacité de choisir, de forger mon avenir, de maîtriser mon destin. Vous, ça ne vous est pas arrivé, mais Adam et Ève, c'est arrivé. Dieu n'avait pas mis cet arbre pour piéger les êtres humains. Il avait mis cet arbre pour éprouver l'amour des êtres humains. La vérité, c'est qu'ils se sont aimés un peu plus que Dieu. Juste un peu plus. Je ne sais pas s'il y a des narcissiques ici qui aiment bien se regarder dans le miroir. Peut-être c'est bien de laisser Dieu juste devant. Ça nous préserve de tellement de choses. Mais lisons ceci. Le serpent, Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ? Au verset 7, les yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. Verset 24, après avoir chassé Adam, Dieu posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le péché est venu tout casser. Ton orgueil naturel, celui contre lequel tu luttes, ces penchants naturels avec lesquels tu es mal à l'aise, toute cette définition d'un Dieu qui est peut-être trop lointain ou auprès duquel tu n'as pas envie de te soumettre, est né ici, dans ce jardin. Ce jardin extraordinaire où Dieu voulait les êtres humains avec lui pour les aimer, passer du temps. Les hommes, toi, moi, on est fait du même bois. On fait le choix de se rebeller, d'écouter une autre voix que celle du Dieu créateur. Et ça va résumer ta vie de tous les jours. Est-ce que tu écouteras sa voix, lui, ou cette voix-là, nourrie par une autre voix étrangère qui fait rondement des compliments qui me plaisent bien ? Ça résume ta vie. Mais là, on se retrouve face à une impasse. Le jardin idéal, extraordinaire, l'accès nous y est fermé. Et Dieu, dans sa sagesse, a voulu que cette histoire nous serve de leçon jusqu'en 2025, aujourd'hui. Un voile a été matérialisé pour rappeler que des chérubins étaient restés devant l'arbre de la vie, comme une barrière. C'est extraordinaire de vivre avec Dieu, mais ton péché barre l'accès à la présence de Dieu. C'est extraordinaire de parler avec Dieu, mais tu ne peux pas parce que tu es pécheur. Bonne journée. Si on s'arrête là, est-ce que c'est l'évangile ? L'évangile dénonce le péché. La bonne nouvelle, c'est aussi une réalité, une vérité. Ton cœur, excuse-moi de le dire, il est pourri par nature. Ah, il y a des bonnes personnes ici. Je ne juge pas vos faits et gestes. Je juge ce qu'il y a dans le cœur parce que j'ai le même. Dieu a demandé aux êtres humains de former un voile pour rappeler que c'est une barrière. Les anges ont été placés. Et où est-ce qu'a été placé ce voile ? Allez, petit quiz. Où est-ce qu'il y a eu un voile dans la Bible ? Eux, ils ont déjà répondu par là. Eux, ils ont la BD à la maison là aussi. Allez, d'autres enfants ou des grands-enfants ? Ah, Jérémie, il était où ce voile ? Tu sais ? Ah, il a levé la main par automatisme. Allez, ils ont barré le chemin, mais il était où ? Est-ce que tu peux me mettre l'image d'après, s'il te plaît, Léana, pour les aider ? Il était où, ce voile ? Yes, avant le temple, il était dans le tabernacle, et après, ce voile a été agrandi encore, et il était dans le temple. Il séparait quoi, ce voile ? lieu saint et lieu très saint. Où est-ce que Dieu manifestait sa présence de manière physique ? Dans le lieu très saint. Comment accéder à la présence de Dieu alors s'il y a une barrière naturelle ? Il est dit, et Dieu va donner ses ordres, le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. On fit le voile selon l'art du brodeur et l'on y représenta des chérubins. Dieu voulait habiter avec son peuple. Il continue, sa volonté n'a pas changé. Le jardin, plan B, allez on y va. Mais comment on fait ? Dieu est quand même là, mais on n'a pas le droit d'y accéder. La Bible dit que celui qui voulait y accéder avec légèreté ou par détermination, il pouvait mourir dans la présence de Dieu à cause de son péché. Dieu voulait habiter avec nous, mais, je vous ai mis des petites flèches pour vous montrer le temple, Dieu habitait là, il y avait sa présence, mais le problème n'était pas réglé. Le problème était toujours le même. Et un problème de taille, une porte d'entrée de 300 kilos. Vous allez me dire, mais attends, c'était pas du titane ou... Non, c'était juste du tissu. Mais écoutez ces dimensions, 20 mètres de haut, 9 mètres de large, 10 centimètres d'épaisseur. Selon les calculs, environ 300 kilos. Ah, c'est pas le rideau de la douche. Hein. C'est même pas ta porte d'entrée. On ne peut franchir. Imaginez, j'ai essayé de réfléchir pour vous montrer, mais j'avais pas assez d'habits pour faire, enfin si 10 cm on aurait pu le faire, mais pour vous montrer l'épaisseur, 300 kilos derrière ce voile, Dieu était là. Et cette réalité, c'était un appel. Tout être humain qui venait là, à la porte du temple, voyait ce rideau, cette porte, ce panneau défense d'entrée, je sais pas si vous voyez bien, mais... Des chérubins sont là, identifiés en disant « Mais c'est fini, c'est fini. Tu ne peux pas, dans l'état où tu es, aller avec Dieu. » Je vous dis bon appétit, on arrête là ? C'est bon ? Ok. Donc vous restez de ce côté de la porte et vous êtes content. Vous croyez qu'il y a un Dieu, il est lointain et ça vous suffit ? Moi, ça ne me suffit pas. C'est pas ce que Dieu a voulu. Et quand Dieu veut quelque chose, ça se produit. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Elle est extraordinaire. Quand Dieu dit « Je veux être avec les hommes », il met tout en place pour que les hommes soient avec lui. Parce que Dieu nous aime. Et ce qu'il avait prévu à l'origine dans le jardin d'Éden, il le veut encore aujourd'hui à Colomiers et dans tout l'ouest toulousain. Il le souhaite jusqu'à l'île Jourdain. Il le souhaite même pour le Gers et tous les Gersois, que Dieu les bénisse. Il le veut plus que toi, tu ne l'espères. Dieu veut être avec toi dans ton quotidien. Quel était le plan de Dieu ? Vous avez une porte, vous voulez rentrer, qu'est-ce que vous faites ? Des petites idées ? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une porte et qu'on veut rentrer, Ezra ? On tape à la porte, ok. C'est une... L'étape d'après, on nous a dit « Entrez !» Qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre. Donc, entrez, j'ouvre la porte. Elle est bizarre ma porte. Et après ? Ah, tu rentres, on est d'accord. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait juste rester devant la porte. Ouh, mes amis, la religion va te dicter ça. Toc, 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 entrez et tu restes devant la porte. La religion ne te sauvera pas. Ta bonne volonté, même si tu dis « Ah, j'ai entendu quelque chose, j'ai ressenti quelque chose de manière émotionnelle », tu vas rester devant la porte. La vérité, c'est que si tu veux être avec Dieu, il va falloir franchir le seuil de la porte. Est-ce que quelqu'un a déjà manœuvré une porte de 300 kilos ? Bien, ouais, Jérémy, il est trop fort. Jérémy, 300 kilos, à l'aise. Ouais, j'ai oublié de vous dire, il n'y avait pas de poignée sur cette porte. Cette porte, elle était attachée par des gros arceaux, bien scellés. On ne le manipulait pas comme cela. Il fallait, pour l'installer, parce que quand il le changeait, il fallait à peu près 70 personnes pour le manœuvrer selon le rituel du temple. On ne le manipule pas comme ça. Alors quel est le plan ? Ben, Dieu avait un plan. Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus est venu simplement, il est venu humblement, il est venu à peine plus petit que Jérémie. Alors imagine, Jésus, il n'a pas réussi à manipuler le temps, le voile, tu ne le feras pas non plus, Jérémie. Mais Jésus, il a grandi, il n'est pas resté dans sa mangeoire, il a grandi, il a évolué. Il est dit de Jésus qu'il était sans péché, que partout où il faisait, il se soumettait à ses parents. Les enfants, amen ? Non ? Je le refais, vous dites amen, tous les enfants qui ont des parents dans la salle. Et Jésus, il arrivait, il était sage et il se soumettait à ses parents. Il n'y en a qu'une qui l'a dit, c'est la mienne, super. Promis, je ne l'ai pas payé ni contraint. Jésus est venu. Jésus, parmi nous, il posait sa main sur les malades, il les guérissait. Il allait auprès des prostituées. Et il leur disait, hey, tu n'es pas rien, tu n'es pas un objet, tu es importante pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé. Il allait auprès des lépreux et il posait sa main sur eux. Il avait contact, il les prenait dans ses bras. Jésus, il allait, il voyait une femme endeuillée, son bébé mort à ses pieds. Il ordonnait à la vie de reprendre sa place et l'enfant était rendu à sa mère. Jésus est allé devant, et il a ressuscité plusieurs, mais il est allé devant le tombeau d'un ami. Et si tu es ami de Dieu, tu es important pour Dieu. Jésus a dit à Lazare, sors. Et Lazare est sorti du tombeau. Jésus, partout où il allait, il nourrissait les foules qui avaient faim. Il consolait les cœurs brisés. Il guérissait les corps malades, il libérait les captifs. Et peut-être ce matin, quelqu'un est tourmenté par des esprits impurs. Peut-être tu es tourmenté par des mauvaises pensées qui te conduisent. Et Dieu voudrait te dire stop, n'ôte pas la vie à celui qui te l'a donnée. Dieu veut te libérer de ces choses-là. Jésus est venu et partout où il allait, il faisait du bien. Jésus faisait du bien. Quand quelqu'un fait du bien, on l'aime en retour. Alléluia! Amen. Jésus a dit, et c'est peut-être pour cela qu'on ne lui a pas fait que du bien. Ouais, c'est le verset d'après, merci. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Et personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Nul ne peut connaître Dieu si ce n'est par Jésus. C'est ce que dit ce verset. Et Jésus avait la volonté de faire connaître le Père, Dieu créateur du jardin, Dieu qui marchait avec Adam et Ève, ce même Dieu qui a fait mettre cette porte interdite de passer. Jésus l'a dit, moi je veux vous amener vers le Père, vous le connaître, vous le présenter. Et Jésus va rajouter dans un autre passage dans Jean 14, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Oui, j'ai conscience que ce message est exclusif, ce message est resserré, ce message, c'est à prendre ou à laisser. J'en ai bien conscience, mais jusqu'à mon dernier souffle, je le prêcherai. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui qui t'amène auprès du Père. Et si tu trouves ça extraordinaire ce qui s'est passé dans le jardin, dis-toi que Dieu, son plan, il s'est accompli. Alléluia. Jésus est là. Et Jésus, il est allé dans le temple. Jésus, il a vu ce voile. Et Jésus, il est Dieu. Il est là parmi les hommes. Comment on fait si Jésus, humainement, ne peut pas ouvrir? Ne fallait-il pas quelque chose de plus? Parce que malgré tout son bien, toute sa bonne volonté, tout ce qu'il a fait, qui sont innombrables, et la terre ne pourrait contenir tous les livres si on avait écrit tous les miracles de Jésus. Malgré tout cela, il fallait autre chose. Si Jésus a marché sur la terre des hommes, cela n'était pas suffisant. Puisque Jésus, homme, ne pouvait t'amener vers le Père. Mais Jésus, Dieu, lui, il le peut. Voici ce qui s'est passé. On l'a condamné à mort. Ils l'ont attrapé comme un malfrat. Comme un prisonnier, on lui a passé les menottes, on l'a brutalisé, on l'a frappé, on l'a insulté, on lui a craché au visage, on l'a humilié, on a lacéré son dos à coups de fouet, on l'a ordonné de porter un bois sur lequel on allait le pendre. Et sur ce bois, il est dit dans Matthieu 27, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il mourut. Quel est ce plan bancal ? Que Dieu doive venir mourir à ta place. Il n'y a rien qui marche. Dieu, il est saint et il choisit de mourir pour toi. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Normalement, celui qui meurt, c'est le condamné. Celui qui meurt, c'est celui qui mérite cette condamnation. Celui qui meurt, c'est celui qui a fait un acte impardonnable. Celui qui meurt, c'est celui sur qui est tombée la justice. Dieu a pris ta place sur la croix. Dieu savait et languissait de retrouver comme cette relation qu'il avait eue dans le jardin. Et voilà pourquoi Dieu est venu par Jésus mourir sur cette croix. Et vous savez ce qui s'est passé au moment où il poussa un grand cri et il mourut ? J'ai une bonne nouvelle. À ce moment précis, le rideau suspendu dans le temple se déchira, depuis le haut jusqu'en bas. Dieu, excuse-moi Charlotte, Dieu avait vu cette barrière, il avait vu cette barrière, il en a pris comme une feuille et en déchira pour que tu puisses avoir un libre accès dans sa présence. Dieu est mort, et au moment de la mort de ce Dieu venu en croix, parce que il fallait un agneau sans tache. Il fallait quelqu'un de parfait. Moi, je meurs pour mes enfants. Quelle valeur ça a à part sacrificielle d'un père ? Je suis imparfait. Je ne peux sauver leurs âmes. Mais celui qui était saint, celui qui était parfait, lui pouvait prendre ma place pour que ma dette soit effacée, pour que celui sur qui est tombé le châtiment me confie la paix. Jésus est mort. Et ce jour-là, le rideau a été déchiré. On l'a déjà chanté. Le rideau a été déchiré. Le voile, ce voile qui était une défense d'entrée, venait de tomber. Le lieu saint et le lieu très saint ne faisaient qu'un. Et là où Dieu était, les êtres humains pouvaient y avoir accès. Tu peux avoir accès à Jésus, à Dieu par Jésus. Tu peux venir à Dieu tel que tu es, parce que lui a payé le prix. Je vais le refaire s'il n'y a pas eu assez d'amen. Je crois que vous ne réalisez pas. Par la mort de Jésus, la séparation qui te faisait une barrière naturelle, t'a donné ce libre accès à Dieu. C'est un peu mieux. Mais depuis tout à l'heure, j'atteste que Jésus est Dieu. Là, au final, on n'a qu'un homme, peut-être fou, peut-être menteur, qui est mort sur une croix. Qu'est-ce qui fait que Jésus est Dieu ? Si je regarde, jour 1, jour de sa crucifixion, il est mis au tombeau. Par sécurité, parce que quand même il était un peu connu, on met une pierre et on y met des gardes. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont voler le corps et faire croire qu'il est ressuscité. Jour 2, les gardes sont là. Mais bon, c'est non-stop. Je ne sais pas s'ils avaient beaucoup de gardes pour se relayer. Mais en tout cas, la Bible nous relate que dans ce jour 2, dans cette nuit du jour 2, ils vont s'endormir. 2 jours. Nous sommes samedi, le jour 2. Jésus est toujours mort. Oui, au final, il s'est sacrifié. Peut-être qu'il n'était pas saint dans sa tête, cet homme-là. Qu'est-ce qui fait que Jésus est Dieu ? Le jour 3, ce dimanche matin-là, ce jour où des femmes résolues qui pourtant avaient suivi Jésus pendant 3 ans se sont dit « c'est fini, il est mort, il nous a fait croire qu'il était Dieu, on croyait qu'il était Dieu, on croyait qu'il était la solution, mais au final, il est juste mort ». Et ce dimanche matin-là, alors qu'elles arrivent, la pierre a été roulée, elles rentrent dans le tombeau, elles penchent la tête, il n'y a plus de corps, où est mon Jésus? Où est mon Seigneur? Elles le cherchent partout. Un ange va poser cette question, mais, et je le disais vendredi soir, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Si Jésus est Dieu, c'est parce qu'il a vaincu la mort à lui tout seul. Il n'était pas un homme plus fort que les autres, il était Dieu sur la terre. Et si Dieu est venu mourir pour toi, et si Dieu est ressuscité pour te donner la victoire, alors tu peux l'avoir à toi aussi cette victoire. Tu peux être avec Dieu ce matin. Oh, ce matin, Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il s'est présenté à 500 témoins. 500 témoins qui ont payé de leur vie le fait d'avoir dit Jésus est vivant. 500 témoins qui ont été martyrisés. 500 témoins qui ont été mis dans des prisons. Leurs familles les ont abandonnés, croyant que Jésus était ressuscité. Jésus était là, il a montré ses poignets crucifiés, il a montré son côté percé, il était là, il a fait un petit barbecue à Pierre pour le consoler. Jésus était bien là. Jésus est ressuscité. Alléluia. Le voile a été déchiré. Il y a un libre accès auprès du Père. Jésus nous a montré la voie. Mais ce matin, je sais que certains sont là comme devant la porte. Depuis tout à l'heure, vous avez entendu le toc-toc-toc de Jésus qui vous dit « Hey, ouvre la porte, je suis là, je suis vivant. » Peut-être que tu as la main sur la poignée, peut-être même tu as ouvert et tu vois Jésus face à face. C'est une réalité, mais tu es du mauvais côté de la porte. Soit tu la franchis, soit tu laisses venir Jésus. Mais vous ne pouvez pas vous regarder en chien de faïence. À la croix, Jésus est mort. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et il te dit, arrête de regarder parmi tout ce qui est mort. Regarde au vivant et au ressuscité. Alors si le voile est déchiré, si l'accès a été rétabli, et qu'au final, Jésus va venir chercher ceux qui auront franchi cette ligne-là. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai ces feuilles déchirées à mes pieds, mais vous êtes toujours de ce côté-là. On va dire que vous êtes du bon côté. Je ne vais pas tous vous faire lever. Pas roi des rois, on n'a pas chanté encore. Voilà, Christ est ma seule fondation. Jésus, il a fait ça. Le voile, on ne l'a pas chanté, soyez rassurés. Le libre accès, je l'ai. Qu'est-ce qui m'empêche de traverser? Ah, on n'a pas dit tout à l'heure qu'il y avait un problème avec mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Et c'est quoi le péché? Ah, je vous pose une colle là. C'est quoi le péché? C'est mentir? Voler? Tuer? C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? C'est de rester là. Et de rester de ce côté. En me disant, moi je gère ma vie. Je reste là. Alors que le voile a été déchiré. Alors que je pourrais aller avec Dieu. Le péché, si tu veux l'abandonner, tu n'as qu'à dire, je reconnais que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de Jésus pour rentrer dans sa présence. Et à partir du moment où tu reconnais cela, que tu acceptes le sacrifice de Jésus, alors ton péché disparaît, alors ta dette est effacée, alors tu peux recommencer. Tu as franchi une porte, tu as changé de ça, deux salles, deux ambiances. Il y avait la mort, maintenant il y a la vie. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et j'ai une bonne nouvelle, peut-être ça vous effraie pour les lecteurs de l'Apocalypse, du livre de Daniel ou d'Ézéchiel, mais Jésus revient. Jésus revient et parce qu'il est vivant, il viendra faire des gros câlins à tous ceux qui auront franchi ce voile-là. Ce matin, je fais un appel solennel, un appel de tout mon cœur. Et si je pouvais donner ma vie pour que vous puissiez répondre à cet appel, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Ne reste pas du mauvais côté de la porte. Ne reste pas dans ta condition. Mais viens à Jésus. Viens à Dieu qui t'attend les bras grands ouverts. Parce que Jésus t'attend maintenant. Il t'a donné rendez-vous ce matin. Que tu sois un enfant de moins de 10 ans, que tu sois un enfant de plus de 70 ans, tu restes une personne que Jésus veut accueillir lorsqu'il viendra. Mais, et désolé d'un peu de casser l'ambiance, mais un jour il sera trop tard. Si tu es resté du mauvais côté de la porte se refermera. Une autre porte sera placée et une séparation éternelle sera faite entre deux camps. Ceux qui auront reconnu Jésus comme Dieu, le Messie qui me conduit auprès du Père, et les autres. C'est tout. Pas de dénomination, pas de combien d'années de chapelet j'ai manipulé, rien de tout ça. Pas de combien de cantiques j'ai appris par cœur ou de versets j'ai appris par cœur, rien de tout ça. Est-ce que tu as fait le bon choix dans ta vie? C'est la seule chose. Et ce matin, et je m'arrête là, si Jésus revient, c'est qu'il te cherche. Et si ce message a lieu ce matin, c'est parce que Jésus frappe à la porte de ton cœur et voudrait, enfant, grand, vieillard, Jésus t'accueille. Il te tend les bras, il te tend les mains et il voudrait tant t'avoir près de lui. J'aimerais inviter l'équipe de louanges à me rejoindre et ensemble nous allons réaliser encore ce matin que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus te cherche. Et ce matin, alors que nous allons prendre ce pain, ce vin, réaliser que Jésus est mort à la croix, qu'il a été crucifié pour mes péchés, que par ses meurtrissures je suis guéri, j'aimerais faire un appel solennel à quelqu'un. Pour une main levée, je me dis, Seigneur, ce message valait la peine. Mais j'aimerais, alors que nos yeux se ferment, s'il vous plaît, c'est un temps vraiment très solennel, j'aimerais vraiment que vous réalisiez que c'est une notion de vie ou de mort ce matin. Il y a quelqu'un qui peut passer de la mort à la vie ce matin. Et il y a quelqu'un qui peut rester dans la mort et dans une mort éternelle. J'aimerais que nos yeux se ferment. Et j'aimerais te dire, Jésus te cherche. Jésus est mort sur la croix. Le voile a été déchiré. Parce que Jésus est allé sur la croix, alors le voile a été déchiré. Le libre accès auprès de Dieu a été restauré. Jésus est le chemin, la vérité qui te donne la vie. Et ce matin, j'aimerais vraiment appeler quelqu'un à prendre une décision. Si quelqu'un veut franchir le voile, franchir la porte et aller se jeter dans les bras de Jésus, femme, enfant, vieillard, jeune homme, qu'importe ton âge, choisis la vie, choisis Jésus. J'aimerais t'inviter à marquer ton choix par une main levée. Tu le fais simplement, mais tu le fais de tout ton cœur. Tu ne le fais pas parce qu'un pasteur le dit derrière son micro, mais tu le fais parce que toi, ce matin, tu décides de franchir la porte, de franchir le voile, parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait donner sa vie à Jésus? Et je tiens à le dire, celui qui lève sa main, ce n'est pas pour la rebaisser en sortant de ce lieu. C'est une main tendue vers Jésus le Sauveur, que Jésus le Sauveur saisit maintenant. Alors que des mains se lèvent, peut-être c'est une restauration d'amitié avec des chrétiens. Et ce message est aussi valable, parce que bien souvent les chrétiens, on a oublié que Jésus était le chemin. Peut-être quelqu'un a besoin de lever la main pour retrouver le chemin, repasser par la porte, parce qu'il s'était éloigné du chemin originel. Seigneur, tu vois ces mains levées. Tu vois ces mains décidées à s'engager, à franchir la porte et à ne plus jamais revenir en arrière. Je te prie ce matin pour que ton esprit, ton Saint-Esprit vienne agir dans les cœurs. Seigneur, tu es celui qui donne la vie maintenant. Tu es celui qui donne la vie maintenant. Jésus, je te prie maintenant. Oh Seigneur. Jésus, oh viens, tu vois ces mains levées, elles sont devant toi, elles sont comme saisissant la main de leur Sauveur. Jésus, je te prie maintenant de venir toucher les cœurs à salut, que des enfants lèvent la main auprès de Jésus, que des personnes âgées le fassent ce matin. Jésus, je te prie, viens agir.